Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Un peu plus de 11h sur Radion. Merci de nous rejoindre dans Wagon Livre. Votre émission littéraire vous accompagne jusqu'à midi. Un grand bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir retenu donc ce nouveau rendez-vous. À un mois, jour pour jour, du début du Printemps des Poètes, je reçois non seulement une artiste peintre, mais également une âme hypersensible qui signe un nouveau recueil de textes poétiques intitulé Petite chronique du très ordinaire aux éditions L'âme du rasoir et qui est sortie en décembre de l'année dernière. Alors au sommaire de ce livre nouveau, des haïkus de grâce et des pansements. Bonjour Sophie Lainée.
Bonjour Yannick.
Alors Sophie, nous nous étions rencontrés au mois de juin de l'année dernière. Vous veniez alors de faire paraître des haïkus zen et autres poésies sauvages. Je dois préciser que vous êtes installé dans Lyon, à Vézelay, que vous êtes artiste peintre, connu sous le pseudonyme de Sola, et vous exercez aussi votre art de l'écriture qui vous rend rayonnante, heureuse et que vous partagez avec vos lectrices et lecteurs. Alors je tiens à préciser que Petite chronique du très ordinaire aux éditions de l'âme du rasoir peut se commander sur le site internet de la librairie de Vézelay, l'or des étoiles. C'est bien cela, Sophie Lainée.
Oui, et bientôt, on pourra aller aussi le chercher directement dans la librairie.
Je ne peux m'empêcher d'ouvrir cette émission Wagon Livre avec un de vos textes, Sophie Lainée, qui a pour titre « En train ». Tout au long du voyage, au lieu de s'inquiéter de ne pas arriver à destination, mieux vaut s'assurer, dès le quai de la gare, de monter dans le bon wagon. J'espère qu'avec Wagon Livre, vous êtes dans le bon wagon, Sophie.
Écoutez, je pense que oui.
Alors, je vous ai présenté. Revenons peut-être sur le titre de ce recueil. D'abord, ce sont des petites chroniques du très ordinaire. Comment comprendre le titre de ce recueil nouveau?
Oui, d'autant plus qu'il y a un trait d'union entre « très » et ordinaire, pour le jeu de mots trésor, dinaire. Donc il y a le trésor dans l'ordinaire. Voilà. C'est justement parce que les trésors sont cachés dans l'ordinaire que j'ai choisi ce titre.
Alors le recueil est composé de 3 sections. Il y a des haïkus zen de grâce.
Des haïkus de grâce.
Ils sont zen aussi
ils sont
d'une certaine manière.
Ça dépend lesquels.
Il y a les pansements, mais orthographiés. P-E-N-S-E-M-E-N-T-S.
Oui, tout à fait.
Des pansements à l'âme.
Oui, on va dire ça.
Et puis, il y a une section poésie sauvage.
Voilà, c'est le même format, enfin, c'est la même construction que l'ancien recueil, que le premier recueil dont vous avez parlé tout à l'heure. J'ai gardé la même formule.
Alors, Sophie, vous expliquez votre démarche d'écriture au regard aussi de votre activité d'artiste peintre à Vézelay. Et en fin de compte, vous vous interrogez sur, finalement, produire des œuvres, c'est bien. Faut-il obligatoirement produire des œuvres extraordinaires? Ne faut-il pas, justement, tendre vers autre chose que l'extraordinaire? C'est-à-dire, finalement, s'imposer un petit peu moins de pression sur sa créativité artistique?
On vit dans un monde où beaucoup de gens recherchent des sensations fortes, comme si c'était vraiment nécessaire pour se sentir vivant. Et je crois justement que le travail de l'artiste, c'est de pouvoir révéler que les sensations n'ont pas besoin d'être fortes, dans le sens que la puissance peut avoir, prendre d'autres formes que celles qu'on l'imagine, et que c'est pas, et qu'on n'a pas besoin de vivre en risquant toutes les 5 minutes de la crise cardiaque pour pouvoir se sentir vivant, et qu'il y a peut-être d'autres moyens de se sentir vivant en changeant de regard sur le monde et ce qui nous entoure.
Alors arrêtons-nous sur le vivant, parce que dans le prologue à vos textes, Sophie Lainée, vous martelez que vous êtes engagée dans un travail, ça on peut le concevoir, que ce soit devant une toile ou devant la page blanche, mais vous expliquez surtout que vous êtes engagée au profit du vivant. Et d'ailleurs vous parlez, et cela demandera de votre part une explication, vous parlez de l'étincelle divine qui fait battre votre cœur.
Oui, oui, oui.
Alors, est-ce que Dieu est en vous ? Parce qu'il y a aussi un grand nombre de textes qui touchent à la religion, plutôt la religion chrétienne.
Alors, il y a plusieurs, enfin, qui touchent à la religion, non, je dirais à la spiritualité plutôt. Et on risque de choquer peut-être les auditeurs. Pour moi, une religion n'est qu'un moyen. C'est pas une fin en soi, c'est pas un absolu, c'est pas un objectif à atteindre. Ce qui veut dire que moi, voilà, je suis aussi sensible au zen japonais où je trouve aussi qu'il y a des très très belles choses dans le christianisme. Enfin, voilà, je suis pas reliée, même si je vis à Vézelay, et que on va dire que Vézelay, ben, les gens pensent tout de suite. Chrétienté,
Marie-Madeleine.
Voilà, Marie-Madeleine. Je suis très sensible à l'énergie de Vézelay, à l'énergie de Marie-Madeleine et du Christ, mais pas uniquement. C'est-à-dire que pour moi, chacun doit trouver ses propres outils pour développer sa propre spiritualité, c'est-à-dire son rapport au monde et à ce qui nous dépasse. Et après, chacun suit son rythme et puis et va vers ce qu'il appelle.
Alors, chacun suit son rythme. Si vous le voulez bien, Sophie, on suit le rythme de l'émission. On marque un premier intermède musical. Je rappelle que jusqu'à midi, dans Wagon Livre sur Radio On, c'est Sophie Lainée qui nous accompagne pour Petite Chronique du Très Ordinaire, paru
trésor
du Très Ordinaire. Alors oui, attention à la manière...
Il y a un trésor caché dans c'est l'ordinaire. Ça.
Tout est dans la manière de le dire, du trésor ordinaire. C'est à... Aux éditions L'âme du rasoir, nous revenons d'ici quelques minutes.
Just take it all.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Petite chronique du trésor d'Inère de Sophie Lainé, un recueil de textes qui sont poétiques, des haïkus de grâce, des pansements, de la poésie sauvage. Hein, ce sont les trois sections qui alimentent ce nouveau recueil paru en décembre dernier. Alors Sophie, dans le prologue à ce recueil, vous mettez en valeur deux petites phrases d'un guide spirituel qui s'appelle Jean-Yves Leloup, que vous avez entendu lors d'une conférence en Suisse dans l'abbaye de Romainmôtier. Alors, deux réflexions de ce guide spirituel, la source n'a soif que d'être bu, et autre réflexion, et vous en avez déjà un peu parlé avant la pause musicale, ne pas confondre le moyen et l'absolu. Cela demande peut-être une petite explication par Sophie Lainé.
Oui, alors la première phrase, la source n'a soif que d'être bu. Je crois que c'est, je ne sais pas si c'est une phrase qui a besoin d'explication. Déjà, il faut la laisser entrer, comme on dégusterait un bon vin, en la laissant vraiment faire son chemin à l'intérieur. Et se déployer, parce que c'est vrai que c'est une phrase qui peut être assez déstabilisante, dans le sens où souvent la source, si on assimile le mot source à une divinité, quelle qu'elle soit, on s'imagine toujours qu'il faut être obéissant, qu'il faut remplir un cahier des charges assez strict pour pouvoir prétendre à mériter, ce mot-là je l'ai supprimé de mon dictionnaire, mériter une vie telle qu'on la souhaite, alors qu'en fin de compte la source n'a soif que d'être bu nous rappelle simplement qu'elle nous veut vivants avant toute chose et pas forcément bien pensants tout le temps. En tout cas elle nous veut humains, donc on est plus sur une quête d'authenticité que sur poursuivre un objectif de devenir une bonne personne morale.
Et l'autre réflexion de Jean-Yves Leloup, ce fameux guide spirituel qui semble avoir marqué de son empreinte votre vie, vraisemblablement.
Alors, il n'est pas le seul, mais oui, il a fait partie, effectivement. Beaucoup de lectures de ses livres m'ont inspiré à plein d'égards.
Alors, l'autre recommandation de Jean-Yves Leloup, c'est ne pas confondre le moyen et l'absolu.
Oui, et ça me paraît être un basique vraiment fondamental, dont on ne se rend pas bien compte, mais qui nous agit au quotidien à plusieurs niveaux. En fait, c'est important d'honorer des moyens, mais étant donné que le moyen, c'est ce qui nous permet de poursuivre une quête. Mais ce chemin-là, c'est court si on place le moyen comme un absolu, si on fait cette confusion, c'est-à-dire que pour moi, tout ce qui est déjà dans la matière, jusqu'à mon corps physique, ce ne sont que des moyens. C'est-à-dire que ce qui différencie le moyen de l'absolu, c'est que le moyen est périssable, par définition, par essence. Alors que l'absolu, déjà, il n'est jamais atteint, en tout cas pas du vivant. Après, on ne sait pas, personne n'est revenu nous le dire. Mais l'absolu, c'est cette quête en direction de l'invisible. C'est ce désir de se verticaliser, d'atteindre... de toujours rester en mouvement plutôt, pas d'atteindre justement, mais de rester en mouvement, de rester sur le chemin, voilà.
Et la sensualité me semble importante lorsque vous écrivez « Et ce formidable corps de matière que la vie m'a offert est composé entre autres d'une peau pour frémir, aimer, sentir, toucher et être touché au propre comme au figuré, d'une paire d'yeux pour voir, pour boire les couleurs, inspirer les lignes, les mouvements et les formes, capter l'ombre et la lumière, d'une paire d'oreilles très pratique pour entendre et écouter, méditer, me protéger, me diriger, marcher, soutenir et consoler, et d'un nez pour sentir les odeurs, les parfums, les mensonges, la vérité, l'amour et le danger. » Donc finalement, Sophie, j'ai cru comprendre que vous nous réinvitiez à reprendre possession à la fois des possibilités que le corps nous offre de mieux percevoir ce qui nous entoure. Et c'est peut-être cela qui nourrit l'hypersensibilité qui est au cœur de ce recueil, me semble-t-il.
Exactement, et dans sensibilité, il y a sens. Et dans sens nous ramène toujours à l'essentiel, évidemment.
D'ailleurs, page 84, Sophie, il y a un texte extrêmement court qui est comme une maxime, j'allais dire presque, peut-être le mot d'ordre de ce recueil, en tout cas ce qui vous a propulsé à l'écrire. Vous écrivez « La poésie est une arme de reconstruction massive ».
Oui, tout à fait, c'est ce que je pense.
Et puis, il y a aussi des parallèles que vous faites, par exemple la cuisine du peintre. Vous voulez nous le lire, Sophie? Il se trouve page 66. Cela donne du goût aussi à une poésie, peut-être à déguster, à mâcher, et qui laisse en bouche des parfums, des sensations.
Oui. Pour moi, il y a un lien évident entre la cuisine, enfin la peinture, j'appelle ça de la cuisine, hein, quand je fais de la peinture à l'huile, et notamment que je travaille au couteau, j'ai parfois l'impression de napper des cupcakes. Oui. Il y a un rapport très gourmand avec la peinture, comme avec la poésie d'ailleurs, qui est aussi un peu de la peinture. Simplement, à la place de chercher votre couleur en poésie, vous cherchez le bon mot. En peinture, on cherche la bonne lumière, donc on travaille les couleurs jusqu'à obtenir ce qu'on veut. Et là, en poésie, c'est exactement la même chose. C'est
et on peut rater
le choix
un
du
plat.
Mot. Ouais, on peut rater un
comme
plat si on passe à côté du bon mot.
Sa peinture, en fait.
Exactement. C'est-à-dire, c'est le mot qui va être le plus proche de la sensation que le poète veut transmettre. Voilà. Et donc, en ce sens, il y a un lien évident. Et c'est pour ça que je présente souvent mes recueils de poésie comme j'avais fait l'analogie avec le précédent, avec un repas, comme si on allait au restaurant. Il y avait les entrées, il y avait les plats de résistance et il y avait les desserts. Donc, c'est toujours un thème assez récurrent. Ça qui vient me chercher quand j'écris, quand je travaille. La cuisine du peintre. À l'instar du chef qui, derrière ses fourneaux, fait suer ses oignons dans la poêle pour en extraire les sucs, le peintre essore l'image en plissant les yeux pour en extraire la quintessence et rendre ainsi visible l'énergie contenue dans les formes du monde physique.
Alors Sophie, ces textes, certains de vos amis, de vos connaissances, les ont achetés, les ont lus. Et quels sont les retours des premiers lecteurs de ces petites chroniques du très ordinaire? Que retiennent les lecteurs?
Déjà, là où j'ai été vraiment agréablement surprise, on est toujours surpris, parce que c'est que beaucoup de gens l'attendaient, en fait, la sortie de ce deuxième recueil, après le Haïku Zen et autres poésies sauvages. Donc ça, c'était vraiment chouette, parce que du coup, il y a déjà un public qui est là. Et les retours que j'en ai eus ont été vraiment, vraiment, vraiment chouettes. Personne n'a été déçu, bien au contraire. C'est toujours le risque quand on fait un premier recueil et qu'on sort un deuxième recueil sous un format un peu similaire, où on se dit toujours, est-ce qu'il va être aussi bon que le premier? Parce que le premier a eu un beau succès, donc... Voilà, ça met toujours un peu de pression. Et là, en l'occurrence, les retours, et j'en ai eu beaucoup, de personnes qui l'ont lu, ont été super.
Alors, la reconnaissance ne vous intéresse pas particulièrement, Sophie?
Alors, c'est toujours appréciable de savoir qu'on fait du bon boulot et que ce qu'on écrit rend service ou aide les gens, d'une façon générale, ou ouvre en tout cas des chemins de pensée, des chemins de réflexion qui amènent vers plus de liberté. Ça, c'est vraiment, entre guillemets, mon engagement. Quand vous me parliez tout à l'heure d'être engagé au service du vivant, c'est ça, au service du vivant à l'intérieur de chacun de nous. Donc, c'est quand même bien de savoir que ce que je fais, ça porte des fruits. Ça, c'est quand même intéressant. Maintenant, à un niveau plus personnel, si je demande à mon travail de me donner la valeur de mon être, je suis dans la merde.
Dans un des textes, vous parlez de reconnaissance en toc.
Oui.
Et finalement, vous portez aussi un regard critique sur la société.
Oui.
Alors, la société que vous jugez, justement, non spirituelle, celle qui domine un peu trop, malheureusement, et qui est matérialiste.
Oui, c'est vrai que plus je l'observe, plus j'observe qu'on vit dans une société de père et de mère autoritaristes. Donc je dirais pas on aurait pu dire patriarcal, mais ça c'est un mot qui est très employé en ce moment avec toutes ces luttes, et donc je vais pas l'utiliser, parce que pour moi le problème vient pas que des pères, il y a aussi des mères parfois. Donc c'est pas une question de genre ou de sexe pour moi, c'est vraiment une question d'abus d'autorité, c'est-à-dire une société de parents où l'homme et la femme libres on sait plus tellement où ils en sont, où ils sont et s'il en reste encore.
Et forcément, ça rejaillit aussi sur l'éducation des enfants.
Ça rejaillit à tous les niveaux et ça
d'où
crée des dégâts.
Voilà,
ça crée des dégâts. C'est une société qui est hermétique à la. Je trouve, en tout cas, ça, ce n'est que mon avis, hein, mais je trouve que la société est dure, vraiment dure, et qu'elle ne favorise absolument pas la liberté. Qu'elle n'encourage pas du tout les individus à chercher leur liberté ou à être libre, parce que le prix à payer, il n'est pas toujours, il est assez élevé.
Mais Sophie,
il peut être assez élevé.
Pour être libre, il faut penser être libre, et il faut d'abord apprendre à penser. Et parfois, j'ai un regard critique. Là aussi, c'est un point de vue très personnel, où j'ai le sentiment tout de même que la réflexion est quand même souvent absente chez beaucoup de gens. Il y a un manque de réflexion que je juge assez déplorable.
Oui.
Dans des petites choses du quotidien, Sophie. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous partagez mon avis? Ou est-ce que vous êtes plus optimiste?
Disons que le problème entre guillemets de la réflexion, c'est que la réflexion aboutit souvent sur des vérités. Et quand on est pieds et poings liés par un système... On peut tout à fait comprendre que beaucoup de gens préfèrent ne pas trop se poser de questions.
Oui.
Parce que parfois, ça remettrait, ça peut remettre en cause tellement de choses et ça peut enlever tellement de repères vitaux sur lesquels certaines personnes s'appuient que des fois, il est juste et sage et justifié de pas trop réfléchir.
Alors parlons un peu de la gentillesse, parce qu'il y a un texte, c'est dans la section « Les pansements
».
Pansements orthographiés,
oui.
P-E-N-S-E-M-E-N-T-S.
Voilà.
Vous écrivez, alors, mot d'interrogatif, « Être gentil, pourquoi faire ? Au nom de quoi ? De qui ? Jésus et Bouddha étaient-ils gentils ? Les animaux, les plantes, la nature en général ? Sont-ils gentils ? Que vous placez entre guillemets. Alors, il y a l'adjectif gentil au sens étymologique du terme, qui vient du latin gens, c'est-à-dire de noble origine. Comment vous l'utilisez, là, cet adjectif gentil ?
Alors là, pour le coup, je ne suis pas allé voir l'étymologie. Pourtant, c'est quelque chose que je fais souvent quand j'écris. Je ne suis pas allé voir l'étymologie du mot gentil, donc je l'apprends. Simplement, ce mot gentil, comme je l'emploie ici, on pourrait rejoindre le mot bienveillance, qui est souvent mal compris, en fait. C'est-à-dire que la bienveillance...
C'est un peu utilisé dans tous les sens.
Oui,
c'est comme l'adjectif citoyen, quand on l'entend un peu à toutes les sauces.
Voilà, et bienveillance, si on décompose le mot simplement à l'écoute, à la phonétique, c'est bien veiller, c'est-à-dire veiller correctement. Ça ne veut pas dire être gentil à tout bout de champ, ou prendre sur soi, ou être sans arrêt dans la complaisance en affichant un sourire à tout le monde, parce que ça, c'est juste pas humain, en fin de compte, et c'est hyper violent de s'imposer un tel comportement. En revanche, bien veiller, c'est veiller correctement, c'est être en mesure d'accueillir ce qui se passe tel que ça se passe, c'est-à-dire arrêter de déguiser nos émotions, arrêter de nous mentir et pouvoir accueillir réellement tout ce qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire être bienveillant, c'est par exemple si je suis en colère, je suis en colère. Je ne vais pas essayer d'être autrement parce que c'est pas bien d'être en colère. Vous voyez, par exemple, c'est la bienveillance, c'est-à-dire veiller correctement.
La bienveillance exige donc
être attentif
et l'authenticité de ses réactions, c'est-à-dire ne pas accepter non plus.
Justement, c'est pas la complaisance.
Et Sophie, alors votre gentillesse, elle se manifeste sous quelle forme ?
Je ne suis pas nécessairement gentille.
Ah, vous...
c'est pas mon absolu.
Parce qu'il y a ce sens péjoratif de gentil. Quelqu'un qui est gentil, oh, mais il est bien gentil. Oh, elle est bien.
Alors,
gentille.
Il y a ce sens, effectivement, il est gentillet, il est simple d'esprit. Moi, j'en fais une fierté, en fait, d'être simple d'esprit. au-delà de la gentillesse, ce que je trouve extraordinaire, c'est la bonté. Et la bonté, elle est souvent prise pour de la naïveté, parfois de la... comme on dit, on pense que les gens sont bêtes ou on pense qu'ils sont benés, voyez le, et j'avais rencontré une fois un frère comme ça et tout le monde pensait qu'il était attardé en fait.
Alors un religieux,
oui,
un frère,
oui. Oui. Alors qu'en fait, il était juste tellement dans cette bonté que c'était un extraterrestre pour la plupart des gens. Il jouait rien du tout. Il était, c'était sa nature et il était ok avec ça. Donc, et c'est vrai que voilà, c'était quelqu'un de simple et c'était quelqu'un de tranquille. Et il était tellement en décalage finalement avec ce monde actuel que les gens le regardaient d'un œil particulier.
Pour prolonger justement cette réflexion sur la bonté, la bienveillance, la gentillesse de certaines personnes ou leur non-gentillesse, j'aime bien, cédant à force de filer droit, vous parlez de la loque émotive. Alors, on revient peut-être plus vers l'hypersensibilité. Page 119, Sophie, puis-je vous demander de le lire
ça. Alors, ça c'est
à
surtout
force
pour le jeu
de filer droit, donc c'est dans la section les pansements.
À force de filer droit, l'être au fond de moi automatiquement s'endort, tant qu'il ne se passe rien d'intéressant. Mais parfois, et par chance, le train-train déraille, sans crier gare, ce qui oblige la loque émotive à sortir de son chemin de fer.
De fer,
F-A-I-R-E. Voilà, un chemin tiré de fer. Alors,
petit prolongement, donc, explicatif
petit,
et analyse.
Oui, parfois, c'est pas nécessaire, mais parfois, c'est bien quand même de préciser certains jeux de mots. Filer droit, c'est un peu ce qu'on nous préconise depuis l'enfance. L'intérêt, c'est que ça file droit, hein, parce que sinon, on risque d'être puni. Donc, il y a toujours l'injonction de filer droit. Et l'être au fond de moi, c'est-à-dire la partie qui est, c'est-à-dire qui n'a pas besoin de faire pour exister, automatiquement s'endort. Forcément, on devient comme une espèce de locomotive, c'est-à-dire qu'on justement on réfléchit plus et on se calme bien confortablement dans une sorte de routine tant que ça avance et que ça fonctionne, ma foi, tant qu'il ne se passe rien d'intéressant. Mais parfois et par chance, souvent c'est pas vécu comme ça, ou en tout cas c'est vu perçu comme ça, mais bien des années après le choc, le train-train déraille. Le quotidien se retrouve tellement ébranlé, d'une façon qu'on n'avait pas du tout vu venir, qu'on se retrouve comme en train de chuter dans un vide où aucune paroi ne peut, où il n'y a aucune prise sur les côtés pour arrêter la chute. Sans crier gare, évidemment, bon, ça, on est sur le jeu de mots du train et tout ce qui va avec, ce qui oblige la loque émotive, c'est-à-dire tant qu'on est en train de filer droit finalement et qu'on est à moitié endormi, on est à l'état de loque, c'est-à-dire on n'est pas très vigoureux. Même au niveau physique, je veux dire, on dégage pas l'énergie de quelqu'un qui est vivant. Émotive, parce qu'on est plein d'émotions en général qui sont à l'intérieur et dont on est plus victime qu'autre chose parce qu'on les a pas identifiées. Et à sortir de son chemin de fer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut plus trouver notre substance à travers tout ce qu'on fait, l'être nous rappelle à l'ordre et on peut pas l'ignorer.
Sophie, on va marquer un nouvel intermède musical et puis on s'intéressera aussi au regard que vous posez sur la société. C'est dans le prologue, vous mettez en avant cette phrase qui mérite réflexion d'ailleurs. « Être bien adapté à une société malade n'est pas un signe de bonne santé mentale. » Sur ce, on vous laisse 4 minutes de réflexion, le temps de la pause musicale et nous retrouvons notre invitée Sophie Lainé pour les petites chroniques du Trésor d'Inner paru en décembre 2021, aux éditions L'Âme du Rasoir.
Encore un jour gris, j'ai pas l'attitude, pas la volonté. Allongé sur mon lit, je sais qu'il faut que je songe à me lever. Mais moi j'écoute la pluie et je regarde les gens se dépêcher. Je t'attendrai toute la vie, s'il le fallait, s'il le fallait. That love, give me that love, give me that love. Give me that love, give me that love, give me that love. Va par là, dis pas si, fais pas ça. J'ai pas pu quand j'ai dû, pourtant je l'ai tenté mille fois. Tenter l'air de la ville, le quotidien qui défile. Moi je respire quand se dessine enfin ma suite Caraïbe. Alors je prends l'instant qui passe et prends le temps de le voir qui trace. Sans jamais baisser les bras, jamais baisser les bras, jamais. Keep on walking, yeah, I keep on walking. Mais moi j'écoute la pluie et je regarde les gens se dépêcher. Je t'attendrai toute la vie, s'il le fallait, s'il le fallait. That love, give me that love, give me that love. Give me that love, give me that love, give me that love. Give me that love, give me that love, give me that love. That love, give me that love, give me that love. Oh, oh, oh. Dépêcher, je t'attendrai toute la vie, s'il le fallait, s'il le fallait. That love, give me that love, give me that love. Give me that love, give me that love, give me that love. Give me that love, give me that love, give me that love.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est Sophie Lainé qui nous accompagne en cette fin de matinée sur Radion pour les petites chroniques du Trésor d'Inère. Juste avant la pause musicale, Sophie, je citais une phrase qui amène
qui n'est pas de moi.
Qui n'est pas de vous, qui se trouve dans le prologue.
Krishnamurti, oui.
Mais que vous faites vôtre, en tout cas. Être bien adapté.
En tout cas, je la cite, oui.
Ouais. Être bien adapté à une société malade n'est pas un signe de bonne santé mentale.
Oui.
Alors là, vous bousculez le cocotier, vous secouez le cocotier.
Oui. Mais c'est ça, quand on parlait de la gentillesse tout à l'heure. C'est-à-dire, parfois, la gentillesse va pas servir forcément la bonne cause, le vivant, pour moi, il n'y en a qu'une. Mais au contraire, risque de desservir beaucoup de choses. Et là, je pense que effectivement, admettre les limites de cette société, c'est quelque part aussi peut-être une façon de contribuer à sauver les meubles, en tout cas ce qui peut l'être, en tout cas de permettre d'amener quelque chose d'un peu plus réaliste, un peu plus humain, d'un peu plus vivant, et remettre l'humain au cœur des priorités. Ça me paraît vraiment essentiel.
Alors Sophie, vous avez un regard critique sur la société actuelle. Par exemple, dans un de vos textes, vous parlez du mauvais progrès.
Oui.
Le progrès, généralement, va dans le bon sens de l'évolution de la vie, du confort des hommes. Et qu'est-ce que vous appelez le mauvais progrès? Alors il me semble qu'il y a plein d'éléments.
Oui, par exemple, vouloir atteindre l'immortalité.
Et pourtant, il faut accepter notre finitude, ça fait partie d'une forme de sagesse.
Mais on
faut
vit
accepter
dans une société
que rien ne dure.
On vit
les
dans
histoires
une
d'amour, voilà. Notre propre vie, celle de nos parents.
Alors, autant je mesure la difficulté de l'exercice pour être moi-même à expérimenter tout ça, mais autant je vois aussi les drames quand on rejette les lois de vie finalement. Parce que finalement, la mort, font partie des lois de vie. Je dis pas que c'est facile. Hein. J'ai perdu moi-même des gens jeunes, très proches. Donc voilà, je sais ce que c'est cette douleur-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je dirais que le drame de l'humain actuellement, ce serait de se vouloir être Dieu à la place de Dieu, vouloir être calife à la place du calife. Et du coup, forcément, ça se passe pas bien, parce que on n'est pas à notre place. Je ne dis pas qu'on n'a rien à voir avec Dieu, pas du tout. Je pense qu'il y a cette parcelle divine dont on parlait tout à l'heure et qui est présente chez chacun de nous. Je dis simplement que quand on veut jouer à Dieu, c'est-à-dire qu'on veut être tout-puissant d'une certaine mesure, on sort du cadre qui nous protège. Et c'est là où on sort de l'humain et on devient inhumain. En tout cas, on prend le risque de devenir inhumain, c'est-à-dire de devenir une sorte de machine insensibilisée qui peut détruire tout sur son passage finalement. Qu'est-ce qui va l'empêcher de faire ça?
Et le refus ou la contestation ou le fait de ne pas accepter les lois biologiques, ou alors pour certains, des lois jugées sacrées ou divines,
oui.
C'est un manque de sagesse et c'est aussi un manque de réflexion. On revient au manque de réflexion.
On revient au manque de réflexion, effectivement. Après, ce n'est pas tellement un manque de réflexion, c'est un manque de curiosité. Parce que le problème n'est pas tellement de réfléchir, hein, mais le problème est de se poser des questions et d'essayer de chercher, en tout cas, chercher quelque chose, de chercher des réponses. Même si on ne trouve pas, d'être déjà dans cette quête interrogative, curieuse et bienveillante, permet déjà d'ouvrir beaucoup l'esprit.
En tout cas, Sophie Lainée, vous mettez en garde vos lectrices et lecteurs contre un certain nombre de poisons. Il y a dans la section Les pansements un texte que j'aime bien et qui a pour titre L'air toxique. L'air, l'époque, la période, oui. Hein, l'air toxique.
Ah, le jeu de mots
je le lis, Sophie, allez-y, vous me le permettez.
Allez-y.
De la surconsommation est franchement irrespirable. D'où le port du masque obligatoire dans ces temples métalliques où règne le mauvais progrès et toutes sortes de fausses joies en plastique.
Oui. Oui, parce que pour moi, c'est le drame de notre société, c'est rien de plus que la surconsommation, enfin en tout cas la consommation à outrance à laquelle on est sans arrêt invité. Et je crois que c'est ça un peu qui nous perd, en tout cas pour avoir eu souvent des addictions au shopping, par exemple. Moi qui suis une femme et j'aime bien m'habiller, eh bien je peux vous dire que quand je peins, par exemple, ou quand j'écris un poème, j'ai tout sauf envie d'aller dépenser mon argent. Donc ça m'a mis sur une piste de réflexion intéressante autour de la créativité qui apparaissait un peu comme une sorte d'antidote à la surconsommation, justement. J'ai besoin de me remplir d'objets, d'acheter des choses et des choses et des choses dont j'ai même pas l'utilité ou que je vais jeter ou que je vais donner à la première occasion, simplement pour me sentir exister, pour me sentir vivant et avoir une substance.
Vous, Sophie, vous nourrissez votre esprit, vous vous remplissez de réflexion.
J'essaye.
Oui, oui, c'est ça, c'est qu'il y a toujours quand même cette modestie, cette humilité chez vous.
Je suis aussi dans cette société de consommation, je ne vis pas que d'amour et d'ouvrage non plus. Les temples métalliques dont je parle, des fois je suis bien obligée d'y aller. Donc je veux dire, c'est aussi faire ce constat de regarder les choses tout en sachant qu'on en fait aussi partie d'une façon ou d'une autre.
Alors êtes-vous un être humain divinement connecté? Là je reprends élément...
Comme nous tous.
Vous pensez que tout le monde est divinement connecté, oui. Sans le savoir, sans en
avoir. Alors voilà, la différence c'est ça, c'est qu'il y en a qui le savent et d'autres qui ne le savent pas. Mais je pense que c'est la condition de tout le monde.
Mais il y a des individus qui ne reconnaissent aucun dieu, aucune...
Oui, bah oui, c'est leur stricte liberté.
Alors, les réseaux me déconnectent, il y a ce texte. Oui. Bon, les réseaux sociaux ne vous intéressent pas beaucoup.
Si, j'aime bien, parce que ça me permet de communiquer, ça va me permettre de mettre le lien de notre émission... Que les gens puissent aller l'écouter. Dès que je sors un livre ou une expo, je suis contente de pouvoir mettre un événement et de communiquer. Et puis voilà, surtout, j'ai beaucoup d'amis qui vivent loin. Donc ça me permet d'avoir aussi de les suivre un peu à distance dans leur vie, sans être à côté.
Alors, il y a dans la section Les pansements, Sophie Lainée, un texte qui a pour titre « Rendre visite à des gens parfaits ». Et ça ne vous intéresse pas, les gens parfaits?
Non, la perfection est mortifère.
Vous préférez des gens, des humains,
des vrais
un
humains.
Peu comme une pierre qui a des scories, qui n'est pas lisse. Alors, vous préférez le rocailleux, le granuleux,
le poétique.
Ah. Est-ce que vous voulez le lire
Allez,
page 47, rendre visite à des gens parfaits. Et d'ailleurs, vous le dites dès le début, c'est fatigant.
Ouais, c'est complètement fatigant. C'est fatigant. Ne rien oser salir, ne rien oser toucher, surtout ne rien déranger. Vivre en sourdine, sans trop bouger, avoir l'impression d'être dans une église, un musée ou à une réception de l'Élysée. Se sentir assez vite comme un éléphant dans ce jeu de quilles en porcelaine. Chez les gens parfaits, aucune place pour l'aléatoire, donc aucune place pour Dieu en vérité. Car deux êtres parfaits au même endroit, il y en a forcément un de trop. Même si c'est beau, propre, accueillant et chauffé, on n'a jamais envie d'y rester très longtemps chez les gens parfaits.
Donc les gens parfaits, vous préférez l'imperfection, quoi.
Complètement.
J'aimerais qu'on parle un petit peu de la religion. Vous, Sophie, vous n'avez pas le sentiment vraiment de vous exprimer dans une thématique liée à la religion?
Non.
Parce que, bon, il y a Jésus.
Oui, je parle de Jésus, je parle de Marie-Madeleine, je parle de
petite,
Bouddha.
Il y a une petite audace, il y a le sceau à l'Ecclésiastique,
oui.
Qui est un texte assez amusant, je l'aime beaucoup, le sceau. Et puis alors, il y a des polissonneries de Sophie l'aînée. Lorsque la carlingue de l'avion est secouée comme un prunier quelque part en pleine nuit noire, à plus de 10 000 mètres au-dessus de l'Atlantique, même les plus athées de tous les passagers deviennent soudainement croyants.
Ben oui, c'est une réalité. Et pas besoin de croire en Dieu pour être croyant. Vous voyez ce que je veux dire?
Et j'aimerais que vous nous parliez de Frère Pascal.
Oui,
qui apparaît alors dans Ce matin, Père Soleil. Joli texte, page 48. Je ne sais pas, Sophie, si vous voulez nous le lire avant la pause musicale.
Si.
Ce matin, Père Soleil. Très, très beau texte. Page 48, donc. Et qui, effectivement, montre aussi que peut-être le sacré se manifeste dans la beauté.
Les toutes petites choses ordinaires.
Les petites choses ordinaires, hein, petite chronique du trésor ordinaire.
C'est ça pour moi.
Un rayon de soleil, le vol d'un bourdon, même une mouche qui se pose sur notre nez.
Même, quelle que soit l'issue.
C'est du vivant.
C'est ce qui se passe à un moment donné. C'est un coup de projecteur sur quelque chose à un moment donné, agréable ou pas agréable, mais en tout cas, il y a un moment donné, il y a vraiment une présence qui nous permet de faire le constat du réel, parfois de cette morsure du réel, comme je la cite. Mais là, en l'occurrence, c'est un instant de douceur dans une petite chapelle perdue au milieu de la campagne. Ce matin, Père Soleil est venu lécher les pieds sandalisés du frère Pascal. Comme à son habitude, il a traversé le vitrail, donc pas le frère Pascal, on est d'accord, Père Soleil, je précise, derrière l'autel, en slalomant discrètement entre les dalles, pour atterrir aux alentours de 8h30, en silence et en toute amitié, aux pieds de Pascal. Trop absorbé par les lectures saintes du jour, personne ou presque dans la chapelle ne s'est rendu compte de ce miracle ordinaire.
Miracle ordinaire,
ça aurait pu être le titre du recueil aussi.
Petite chronique du trésor ordinaire, c'est le titre du dernier recueil de Sophie l'aînée, À l'âme du rasoir. Je rappelle que ce recueil est disponible en commande sur le site internet de la librairie de Vézelay, qui s'appelle L'or des étoiles. Et puis Sophie, si vous le voulez bien, on marque une nouvelle virgule musicale et nous nous retrouvons juste après, toujours dans Wagon Livre, jusqu'à midi sur Radium.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Petite chronique du très ordinaire, c'est le titre du dernier recueil de notre invitée, Sophie Lainé, artiste peintre à Vézelay. Sophie, il y a un certain nombre de textes qui ont un rapport étroit, alors soit avec le vertige, mais l'idée surtout de la chute. Nous avons tous peur de choir, une chute morale.
Ou d'échouer.
Ou effectivement, oui, d'échouer.
De choir et d'échouer.
Ce qui paralyse parfois l'action, parce qu'on a peur d'échouer.
Oui.
On ne se met pas en mouvement, on n'agit pas et on est pétrifié. Et ça, pour un artiste, c'est dramatique.
Ça dépend. S'ils rentrent dedans et qu'ils ont fait quelque chose, ça peut être très fertile.
Je lis ce texte, je trouve très intéressant.
Ouais.
Quand je me retrouve au fond du trou, si je m'agite dans tous les sens par refus de mon sort, je risque d'aggraver mon cas en creusant encore plus fort. Qu'aurais-je de mieux à faire au fond que m'asseoir et me détendre ? Ça aussi, ça passera. C'est une façon
de survivre au pire, de se résigner,
mais
d'accepter ce qui se passe et ce qui est au-delà de mon pouvoir.
Alors justement, Sophie, dans la vie, il y a des éléments personnels, professionnels, qui ont laissé des traces, qui ont peut-être blessé, des cicatrices justement ouvertes et mal refermées. Et vous écrivez, c'est dans « Il nous arrive parfois », vous parlez de ces deuils nécessaires. Alors c'est quoi les deuils nécessaires ?
C'est très
personnel ?
Non. Enfin, c'est d'une façon générale.
Que sont donc ces deuils nécessaires ?
Les deuils nécessaires, c'est quitter quelque chose pour créer quelque chose de nouveau, par exemple. C'est pouvoir laisser derrière soi un fonctionnement, un comportement, des croyances, des personnes, des relations, des emplois, enfin, ça peut être un ensemble de choses, des lieux de vie, simplement en reconnaissant que c'est plus adapté à qui on est. Et c'est avoir le courage de quitter ça pour pouvoir redémarrer. C'est-à-dire, c'est le secret de la résurrection, en fait.
Ah oui.
C'est se permettre de... Voilà. Et les deuils les plus douloureux, d'après mon expérience personnelle, je peux vous dire que ce n'est pas nécessairement ce qu'on a vécu et ce qui est derrière nous. C'est parfois plus ce qu'on avait projeté de réaliser et qui ne se réalisera pas, finalement.
Et cela veut dire, Sophie, c'est parfois aussi faire le deuil de soi, on veut renaître.
Alors, ce n'est pas faire le deuil de soi, parce que le soi, on ne le laisse jamais derrière.
Ou d'un ancien soi.
Mais en tout cas, c'est le deuil d'un ancien comportement, ou d'une ancienne vie, ou de quelque chose, en tout cas, qui nous a servi peut-être un temps, mais qui ne nous sert plus aujourd'hui. Ou par exemple, des projets qu'on avait, qui avaient du sens à un moment donné, mais qui n'en ont plus un an plus tard. Et ça, c'est le plus compliqué, parce que ce sont des choses, c'est faire le deuil de choses qui n'existent pas ou qui n'ont jamais existé, c'est un cran au-dessus encore en termes de difficulté.
Je vous laisse nous lire un texte, Sophie Lainé, extrait donc de Petite Chronique du Trésor d'Inner.
Une réflexion à propos d'un cadavre de sapin de Noël abandonné sur la Nationale. Juin 2021. Le cadavre d'un sapin de Noël abandonné sur l'aire de repos d'une Nationale. Dans quel genre de salon et de quelle couleur a-t-il été décoré ? Combien de cadeaux a-t-il pu abriter ? À quelle scène familiale a-t-il assisté ? Peut-être qu'un chat domestique s'est emmêlé dans ses branches, qu'un petit garçon est tombé à ses pieds en essayant de poser l'étoile à son sommet. Autant de questions inutiles qui resteront sans réponse. En attendant, ce pauvre sapin se retrouve marron au milieu de ses verdoyants. Verdoyants, pardon. Grillé d'avoir fréquenté les humains d'un peu trop près.
Alors là, c'est un message un peu particulier, peut-être, non ?
Oui, c'est que les humains ne font pas toujours du bien à la nature.
Alors, les animaux sont très présents, comme dans...
L'Arche de Noé.
Comme, ça veut dire, comme dans l'autre recueil, votre ancien recueil, Sophie, il y avait déjà un très riche bestiaire. Là, on retrouve des vaches, des oiseaux, des canards, les insectes sont assez bien représentés. Il y a les arbres et n'oublions pas les fleurs qui vous sont chères. Il y a un très joli texte qui a pour titre « Les pierres de Byzance ». Alors, je ne savais pas ce qu'étaient les pierres, Sophie. Alors, j'avais compris, effectivement, qu'il s'agissait d'une plante, mais le dictionnaire dit qu'il s'agit d'une plante dicotylédone des bois et des marais.
Oui, alors pas nécessairement, on en trouve aussi beaucoup dans les jardins, c'est ce qu'on appelle les oreilles de lapin.
Et d'ailleurs, j'aime beaucoup, vous voulez nous le lire, ouais. Sophie ce...
Il est court. Les pierres de Byzance, plus communément appelées oreilles de lapin, est une poésie à elle toute seule. Avez-vous déjà touché une de ces feuilles?
Comme vous et comme beaucoup d'auditrices et d'auditeurs, j'aime beaucoup les chats. Et il y a un joli texte.
Le petit chat du musée Zervos?
Oui. Vous, le petit chat en velours.
Oui. Le petit chat en velours, insouciant ses chaussettes blanches, s'étire et se prélasse sur l'herbe fraîchement ensoleillée des jardins du musée, midi au mois de mai.
Ça m'a fait penser à d'ailleurs une phrase de Jules Verne, étonnamment parce qu'on connaît Jules Verne surtout pour ses romans d'anticipation, mais il disait que seuls les chats peuvent marcher sur les nuages. C'est très joli.
Ouais.
Sophie, est-ce qu'il y a, parce que le temps passe hyper vite en votre compagnie, y a-t-il un texte que vous voudriez faire rayonner au micro, mettre en valeur et partager avec les auditrices et auditeurs de Wagon Livre?
Alors, oui, enfin, il y en a
un petit coup de cœur, il y en a beaucoup, hein, bien sûr.
Oui,
moi, j'ai fait une approche très, très personnelle et on ne peut pas rendre compte de la richesse, de la variété de ces textes qui nous invitent vraiment à la réflexion. Et c'est en cela, je crois que ces textes peuvent aider à avancer et peut-être à se construire, voire, Sophie, se reconstruire
oui,
aussi en se nourrissant de ces textes.
Oui, et puis d'autant plus que ce recueil, je l'ai écrit... je l'ai finalisé l'automne dernier. J'ai commencé à l'écrire déjà à partir du mois d'avril. Mais j'ai un peu vécu des moments compliqués, on va dire, et j'ai voulu mettre aussi ce vécu-là à profit à travers ce livre, et notamment dans le poème que je vais vous lire maintenant. Donc, page 49. Le vent balayant le haut des cimes emporte avec lui les vieilles énergies démantelées par mer à lune. L'automne s'annonce sans que l'été n'ait jamais vraiment commencé. Je navigue seul, ballotté sur ce vieux rafio, perdu entre deux tempêtes, au beau milieu de l'été indien. Les parois du tunnel menant à la lumière du royaume se sont resserrées, intensifiant l'ombre autour. Le soleil fatigué braque ses rayons de consolation usés sur moi comme un projecteur, éclairant la scène de mon théâtre intérieur. Quelle sera l'issue du spectacle en cours? Je ne sais plus rien.
Sophie Lenné, un rapide mot sur Jim Morrison.
Oui, Jim.
Qui est un peu à vos côtés, d'une certaine manière.
Oui, parce que je me suis amusée à traduire un recueil de ses poésies, en fait, que j'ai découvert cet été. Et c'est vrai que ça m'a accompagnée. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ce personnage, ce poète, le poète, il a été aussi chanteur, mais surtout le poète, représente justement ce paradoxe mortel entre cette société hyper dure et cette sensibilité à fleur de peau. Et d'ailleurs, il y est resté, lui. Hein. Donc, effectivement, je pense que voilà, pour moi, c'est vraiment le symbole. Jim Morrison et toute sa poésie sont vraiment le symbole de cette. Comment dire? C'est difficile à exprimer en mots, mais de ce choc entre la société et la sensibilité.
Merci Sophie Lenné d'être venue en cette fin de matinée devant le micro de l'émission littéraire de Radion. Je rappelle donc Petite chronique du trésor d'Inert. Si vous avez manqué le début de cette émission, vous la retrouvez en podcast sur yannickpetit.fr. Et puis si vous désirez vous plonger choir dans les textes de Sophie Lenné, vous pouvez vous procurer l'ouvrage via une commande par le site internet de la librairie L'Or des Étoiles, librairie de Vézelay. C'est cela, Sophie?
C'est ça.
En tout cas, merci, Sophie Lenné. Prochain recueil 2023.
Il est déjà en préparation, donc d'ici. J'en fais un tous les 6 mois en ce moment. Donc.
Bravo, Sophie, quelle énergie! Quel engagement dans le vivant,
écoutez,
du côté du vivant.
Ça n'arrête pas.
Nous nous retrouvons samedi prochain, 19 février, toujours sur Radion et à 11h. Nous vous proposerons ce jour-là une conférence que nous avons enregistrée le 5 février dernier à la bibliothèque Louis Aragon de Migennes. Il s'agit d'une conférence sur l'accueil des enfants assistés parisiens en Bourgogne. qu'a donné Marie-Laure Lasvernias, qui a beaucoup travaillé sur cette thématique. Elle est d'ailleurs ingénieure à la Cité des sciences et de l'industrie, et elle est l'auteur d'un ouvrage sur ce sujet, « Histoire de l'agence d'Avalon des enfants assistés de la Seine », un essai dans lequel elle revient sur une page douloureuse de l'enfance abandonnée, mais aussi sur une page de l'histoire économique et sociale du sud de Lyon, et plus précisément du pays avalonnais. Chère Sophie, avant que vous ne regagniez Vézelay, je vous offre le numéro du magazine associatif Vent du Morvan avec un riche sommaire. Le prochain numéro sortira courant mars prochain. Vous avez, Sophie, ça va vous, une gourmande comme vous, vous avez un dossier sur les truffes de Bourgogne, vous avez un dossier sur les bonnes tables du Morvan au XXe siècle. D'ailleurs, il y avait un très bon restaurant à Vézelay. Au XXe siècle, Sophie. Il existe encore, d'ailleurs. Un article sur un livre en préparation par Vent du Morvan sur la cure. Alors, un dossier qui va vous intéresser, Sophie Lainée, il y a un article sur les totems de Gaston Chessac, qui est né à Avalon en 1910 et qui est mort en 64. Et puis, il y a également un article sur la naissance du tourisme autour du lac des Sétons, lac des Sétons dans la Nièvre et dans le Morvan. Voilà. Bonne lecture, Sophie Lainée. Merci d'être venue nous présenter vos petites chroniques du trésor ordinaire. Excellent congé de fin de semaine à vous, Sophie, et à vous, auditrices et auditeurs. Et rendez-vous donc samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Au revoir.